Les marchandes de sable cap sur l'Atlantide, contes des mers et des océans de Roland de Causse, Nané et Jean-Luc Vézinhé. La chanson de la mère phoque. Un jour, au petit matin, le pêcheur Luovic marchait sur le rivage lorsqu'il fut surpris en entendant des voix en provenance d'une grotte. Il fut plus étonné encore en découvrant des peaux de phoque alignées sur l'herbe. Il se baissa, en saisit une et rentra chez lui d'un pas pressé. Il glissa la peau dans le coffre ouvragé qui ornait l'unique pièce de sa maisonnette, le ferma, accrocha la clé à sa ceinture et partit à la pêche. Préoccupé, il passa sa matinée sans prendre le moindre poisson. À l'approche de midi, il revint vers la grève, attacha son bateau et reprit le chemin de la grotte. Il s'arrêta stupéfait devant l'entrée en découvrant une jeune fille nue qui sanglotait. En le voyant, elle se recroquevilla et pleura plus fort encore, le suppliant de lui apporter des vêtements. Lovig courut chez sa sœur et lui expliqua qu'une jeune fille avait fait naufrage et qu'il fallait à tout prix lui prêter des habits. Aussitôt, la brave femme apporta jupons, robes, châles, bas et sabots. Sans perdre une minute, Ludovic se présenta, les bras chargés de vêtements, devant la jeune fille qui l'attendait. Elle se glissa dans la grotte et lorsqu'elle en ressortit habillée, Ludovic resta saisi d'admiration devant sa beauté. Il l'emmena alors chez sa sœur, qui, hospitalière et généreuse, l'accueillit à bras ouverts. La jeune fille demeura chez elle, l'aidant à la conservation et au séchage des poissons. Ses tâches terminées, elle allait s'asseoir face à la mer. On pouvait l'entendre murmurer une chanson pleine de nostalgie dont personne ne comprenait les paroles. Chaque soir, tous trois dînaient ensemble. Le pêcheur était secrètement amoureux de la jeune fille. Un soir, alors qu'elle le raccompagnait à la porte, il se retourna et lui avoua d'une traite son amour et son souhait de l'épouser. À sa grande joie, elle accepta. Ils se marièrent et bientôt un fils naquit. Ludovic agrandit sa maison, construisant une vaste pièce supplémentaire, d'autant plus nécessaire que l'année suivante, une fille vit le jour. La famille continuait de s'agrandir. L'été, la pêche était abondante et les femmes préparaient les poissons afin qu'ils se conservent jusqu'à la fin de l'hiver, tandis que les enfants jouaient autour de la maison. Réservée, leur mère aimait aller se reposer sur la grève, face à l'océan, le regard perdu vers l'horizon. Le coffre enfermait toujours la peau de phoque. Où qu'il aille, le pêcheur emportait la clé avec lui. Mais un jour, il l'oublia. Lorsqu'il revint, il trouva le coffre ouvert et vide. Il appela son épouse, personne ne répondit. Il la rechercha partout, en vain. Il lui fallut reconnaître qu'elle avait disparu. Elle avait trouvé la clé et aussitôt ouvert le coffre. Découvrant sa peau de phoque, elle l'avait revêtue, retrouvant ainsi sa véritable identité. Elle s'était enfoncée dans les eaux profondes, après avoir murmuré un adieu à ses enfants. Le pêcheur pleura longtemps son épouse bien-aimée. Il éleva seul ses 7 enfants. Dans son bateau, il naviguait de plus en plus loin. Un jour, un phoque s'approcha et se mit à tourner autour de l'embarcation. Lorsqu'il vit des larmes couler des yeux de l'animal, il se mit à pleurer aussi. Le manège se répéta jour après jour. Sa seule consolation, le poisson abondait. Les enfants grandissaient. Souvent, ils empruntaient le chemin de la côte. Un phoque surgissait alors, longeait le rivage et les suivait en poussant de petits cris très doux. Lorsqu'il revenait vers la plage, dans une anfractuosité, il trouvait de splendides coquillages que l'animal y avait déposés. Un soir, la plus jeune des filles refit l'habituelle promenade. Le phoque nageait le long de la grève. Elle marcha vers la presqu'île, descendit sur la plage, entra dans l'eau et s'assit sur un rocher. Immergée jusqu'à la poitrine, elle attendit. L'animal s'approcha. L'enfant vit qu'il pleurait. Elle essuya ses larmes et lui parla avec tendresse. La mère phoque, car c'était elle, posa alors sa tête sur ses genoux et chanta. Ma peau de phoque retrouvée, j'ai nagé et abandonné mes 7 beaux enfants de la terre. Maintenant je les protège, de la mer je les protège, et jamais, jamais je ne les oublierai. Puis elle regarda longuement sa plus jeune fille, avant de plonger dans les flots et de disparaître. La petite courut annoncer la nouvelle à toute la famille. Étrangement, leur mère était retrouvée. Ainsi les enfants peu à peu se consolèrent. Cependant ils aimaient s'attarder au bord de la mer. Et souvent un phoque s'approchait, tournait et jouait avec eux. Seul leur père restait profondément silencieux. Mansour et l'île mystérieuse. Au large des côtes occidentales de l'Afrique se trouvait une île que les marins évitaient d'approcher. Tous ceux qui avaient tenté l'aventure n'en étaient jamais revenus. Aussi les équipages prenaient bien soin de passer très au large de cette terre dès qu'ils l'apercevaient. Un jour, un capitaine de Tanger, nommé Mansour, ignorant le danger, naviguait dans les parages de l'île mystérieuse lorsque son navire fut pris par un vent d'une extrême violence qui l'emporta droit vers la terre. Les marins baissèrent en toute hâte les voiles dans l'espoir de ralentir la marche du navire. Rien n'y fit. Le bateau allait se fracasser sur les hautes falaises qui entouraient l'île lorsqu'un étroit passage apparut. Il s'y engouffra. Le voilier déboucha bientôt dans une immense baie aux eaux calmes et encerclée par une haute ceinture rocheuse. Le capitaine Mansour découvrit avec stupeur que de nombreux navires y étaient mouillés. On aurait pu se croire dans un grand port si ce n'était le profond silence qui y régnait et que nul signe de vie ne venait troubler. Mansour fit mettre un canot à la mer et se rendit sur le bateau le plus proche. Il n'y avait pas âme qui vive. Il poursuivit son exploration, mais c'était partout le même spectacle de désolation. Il comprit que cet îlot n'était qu'un cimetière de navires et le tombeau de leur équipage que le vent avait entraîné ici. Le marin sut que ses matelots et lui-même allaient connaître ce sort tragique s'il ne s'échappait pas de là. Hélas, toutes les tentatives pour sortir par l'étroit passage échouèrent. Le navire ne pouvait lutter contre le vent furieux qui venait du large et le repoussait sans cesse. Le capitaine se désespérait lorsqu'un matin il vit les eaux de la baie s'agiter. Ce qui semblait être une baleine gigantesque venait respirer à la surface. Le phénomène inquiétant se reproduisait plusieurs fois dans la journée et il en fut de même les jours suivants. Mansour comprit que cette baie servait de refuge à des monstres marins. Leur présence lui donna une idée soudaine. Il réunit sans tarder ses matelots pour leur faire part de son plan. Le cuisinier reçut ainsi l'ordre de placer tous les déchets et les restes des repas dans un grand filet. Une semaine plus tard, il était plein et dégageait une odeur nauséabonde. Mansour avait l'intention de s'en servir comme appât. Les marins l'attachèrent au plus gros cordage du navire et le jetèrent à l'eau. Le capitaine se souvint que le bateau le plus proche du sien était rempli de marchandises précieuses et ordonna à l'équipage de l'amarrer à la poupe de leur navire. Les hommes avaient à peine achevé leur tâche qu'un énorme serpent de mer, attiré par l'odeur pestilentielle de ses déchets, ouvrit sa gueule gigantesque et engloutit le filet tout entier. Se sentant pris au piège, le monstre marin tenta vainement de se dégager. Agité de soubresauts, il remonta un bref instant à la surface avant de replonger. Les hommes épouvantés eurent cependant le temps d'apercevoir ses mâchoires béantes, aux dents affûtées et son impressionnante nageoire dorsale hérissée de longs piquants. Incapable de se libérer, il tenta de s'enfuir vers la haute mer, entraînant avec lui les deux navires. Lorsque le capitaine et son équipage se retrouvèrent au large, loin de cette île maudite et de son vent sournois, Mansour se saisit d'une hache et d'un seul coup trancha la corde qui retenait le monstre prisonnier, lui rendant à son tour la liberté. C'est ainsi que les deux navires purent regagner Tanger sans encombre. Mansour vendit un très bon prix le vaisseau chargé de marchandises précieuses qu'il avait ramené avec lui et partagea cette fortune avec ses matelots. Il se sépara également de son propre navire, car l'aventure qu'il venait de vivre l'avait dissuadé pour longtemps de reprendre la mer.